Mortel Diamant par Mervez. Enregistré par Christiane Jehan pour audiocité.net. Ce lundi matin 10 juin, il faisait un temps de chien depuis 8 jours. Sitôt arrivée au commissariat, Marie Lester fut abordée par le planton à l'accueil. « Commandant, le patron vous attend !» L'instant d'après, Marie se tenait devant le bureau du commissaire divisionnaire Fabien. « Marie, je vous renvoie à Belle-Île. » Il la regardait d'un air matois, escomptant un accueil enthousiaste que Marie ne saurait dissimuler. Elle avait en effet beaucoup apprécié son séjour sur la reine des îles Bretonnes, où il avait été contraint tout récemment de la laisser partir pour une mission venue d'en haut. Et voilà que de rechef, une affaire délicate venait le priver de son enquêtrice favorite. Mais cette fois-ci, il allait s'efforcer de faire contre mauvaise fortune bon cœur, et ne voulait pas laisser transparaître son déplaisir pour ne pas donner prise au persiflage parfois mordant de Marie. La dite Marie, de fait, demeurait interdite, se demandant, comme on dit familièrement, si c'était du lard ou du cochon. Et le commissaire Fabien, satisfait d'avoir évité de possibles quolibets, en rajouta. « Cela n'a pas l'air de vous faire plaisir. »«
C'est que... » bredouilla Marie, ne sachant quelle contenance prendre, ce qui ravit davantage encore le commissaire Fabien.
« C'est qu'il s'agit d'une affaire complexe. Voilà ce que c'est. En fait, on ne sait même pas trop s'il y a vraiment une affaire là-dessous, ou seulement un accident. Mais enfin, il y a quand même mort d'homme. À vrai dire d'ailleurs, c'est une femme.
Le commissaire Fabien s'embrouillait, et Marie, qui s'était reprise, en profita pour reprendre la main.
« Patron, si vous m'en disiez un peu plus !»
Marie gara sa Twingo chez des amis qui avaient une maison à Saint-Pierre-de-Quiberon, évitant ainsi le tarif exorbitant des parkings. Comme cette enquête pouvait durer et que le coût de la vie insulaire allait probablement doper ses notes de frais, toute économie était la bienvenue. Elle avait 20 minutes à pied pour rejoindre la gare maritime. Heureusement, son sac de plongée était équipé de roulettes, car Marie avait aussi un sac à dos bien rempli avec son ordinateur et tout l'équipement nécessaire pour une enquête, c'est-à-dire armes et bagages au sens propre. La plongée n'était pas un alibi choisi au hasard. Marie devait enquêter sur le décès d'une jeune femme, retrouvée noyée sur une plage au sud-est de Belle-Île, toute harnachée de son équipement de plongeuse. La traversée fut un peu mouvementée. Une forte houle de norrois se déroulait et prenait le ferry par le travers. Les rares passagers s'étaient réfugiés à l'intérieur. Marie, préférant le grand air, savourait la beauté de la mer. Elle en avait connu bien d'autres sur le Drakkar. Une fois débarquée à Palais, Marie repéra en contournant un bassin du port le club de plongée et embouqua une venelle qui la conduisit directement à la pension discrète où elle avait prévu de s'établir. Pas de vue mer ici, mais le charme suranné d'une bicoque sans âge. Dès l'entrée, une petite salle de séjour donnait sur une cour intérieure ombragée par une tonnelle qu'embaumait un jasmin. Un escalier alambiqué ouvrait l'accès à quelques chambrettes avec des plaques de cuivre, corvettes, goélettes, aviseaux. Ah voilà, synago. Marie y était. La fenêtre donnait sur des toits ardoisés. Marie referma la porte et, avisant un fauteuil en vieux cuir, s'y laissa choir avec soulagement. Il n'était que 4 heures de l'après-midi, elle avait enfin tout le temps de consulter le dossier remis par le patron juste à son départ de Quimper, enrichi de multiples recherches du lieutenant Passepoil. Chronologie des événements. Le mardi 4 juin, M. Marcel Le Billan promène son chien, Dépotron Minet, comme chaque jour sur la plage de Port-Andro, située juste sous le phare de Cardonis. Comme son chien ne revient pas de ses divagations, il le cherche et le trouve en arrêt devant un corps de plongeur. Une plongeuse, plus précisément, tout équipée, dont la description est jointe au dossier. Il appelle les pompiers qui arrivent rapidement, font les constatations d'usage et emportent le corps à Palais. Aucun autre témoin par ce temps venté et pluvieux. Les randonneurs n'ont pas encore emprunté le sentier côtier. Les premiers éléments de l'enquête établissent qu'aucune disparition n'a encore été signalée dans le secteur. Aucun club de plongée susceptible d'organiser des sorties à Belle-Île n'a eu d'accident à déplorer. C'est d'autant plus étonnant que la pratique bien établie est toujours de plonger en palanqué. La plongeuse inconnue aurait dérogé à la règle en opérant seule, à moins que son ou ses compagnons n'aient également connu un sort funeste. Ou encore que son infortune ne soit délibérément cachée par son ou ses compagnons de plongée. Voilà des hypothèses qu'il va falloir investiguer. Pas de bateau retrouvé non plus à la dérive, et bien évidemment aucun élément pour identifier directement le corps. On ne plonge pas avec ses papiers. Passons à la description du corps justement. Une femme d'une trentaine d'années, pourvue d'un équipement de plongée particulièrement sophistiqué. Plus précisément, la femme plongeait au Trimix, mélange de gaz permettant un plus grand confort et surtout des plongées profondes. Son ordinateur de plongée n'a pas encore été exploré. Eh bien, voilà une première chose concrète à établir, nota Marie qui connaissait un peu cette discipline. Le rapport d'autopsie établit une mort par noyade, avec des symptômes liés à une remontée trop rapide, probablement avec perte de conscience. Approximativement dans la matinée du 3 juin, la stab était gonflée à bloc, ce qui explique que le corps ait dérivé en surface malgré le lourd équipement de la plongeuse. Et toujours pas d'identification à ce jour, songea Marie. Il y a quelque chose à tenter avec une enquête sur les locations de vacances à Belle-Île ou les places en camping, voire des bateaux ou des tentes délaissées. Deuxième piste, pour celle-là, elle allait solliciter le concours de la gendarmerie en leur demandant avec circonspection de faire preuve de discrétion. Il serait aussi judicieux de consulter le fichier des personnes disparues à plus grande échelle. Là encore, le lieutenant Passepoil ferait merveille. Presque 18 heures, Marie se dit qu'il était grand temps de passer au club réserver une première plongée. Grenouiller dans ce milieu ne pouvait que la mettre en condition et peut-être lui permettre de collecter tel ou tel indice qui la mettrait sur une piste. Le lendemain, Marie s'éveilla tôt, n'ayant pas voulu fermer la fenêtre de sa chambre mansardée. Les coups de sirène des vraquiers manœuvrant dans le port et le carré de ciel d'un bleu limpide typique des îles lui rappelèrent qu'elle était à Belle-Île. Pas en vacances, certes, mais bien pour enquêter sur une mort suspecte. Marie frissonna en se rappelant que juste une semaine auparavant, on faisait à quelques encablures la macabre découverte. Ce matin, elle allait rencontrer la gendarmerie, voir le matériel de plongée entreposé à Palais et les photos du Maccabée. Elle n'aurait pas besoin a priori d'aller elle-même voir le corps déjà parti sur le continent, faute d'infrastructures adéquates sur l'île pour le conserver, et elle ne le regrettait guère. L'avis du légiste lui suffisait amplement. Quelques appels et recherches sur Internet l'amèneraient jusqu'au repas, puis une première plongée de réadaptation avec le club occuperait son après-midi si le temps le permettait. Cette pensée la rasséréna. Retrouver les sensations d'apesanteur et le rythme lent du monde du silence, et au frais de la maison encore, Marie sourit en revoyant intérieurement l'air renfrogné de J.P. lorsque la veille, elle lui avait annoncé qu'elle partait en stage de plongée à Belle-Île. Bien sûr, il eût été plus simple d'interroger un local, mais Marie avait jugé que pour tirer tout le parti des informations laissées par l'équipement de la plongeuse, il était plus prudent de s'adresser à un spécialiste œuvrant loin du théâtre du drame. Elle était donc en visioconférence avec Gaël, moniteur MF2 du CIP, Club International de Plongée d'Aiglénan. « Bien sûr, Marie, que je me souviens de toi. Une sacrée affaire, hein, l'or du Louvre. Depuis, j'ai pris du galon, tu sais. Je suis MF2. Au fait, tu sais la différence entre Dieu et un MF2. À vrai dire, c'est que Dieu, lui, ne se prend pas pour un MF2. » Si tu te prends pour Dieu, tu sais sans doute que moi aussi j'ai approfondi ma formation. Je suis niveau 3 désormais, et actuellement à Palais pour quelques plongées. Niveau 3 ? Félicitations, c'est le bon plan pour Belle-Île. Il y a beaucoup de profondes sympas là-bas. Tu pourras aller à 60 mètres en plongée encadrée. Tu salueras l'équipe du club de ma part. Mais tu plonges plaisir ou boulot ? Boulot, mais j'espère bien que cela n'empêchera pas le plaisir. Voilà. J'ai sollicité cet entretien en visio pour tenter d'élucider un accident de plongée. Un accident ? Pas entendu parler ? Non, rien n'a filtré. Il est important que cela continue à rester confidentiel. Gaël fit le signe OK de la main et Marie dirigea la webcam vers l'ordinateur de plongée semblable à une grosse montre étanche. Voilà, j'aimerais que tu me fasses parler cet engin.
Trop facile. Tiens, c'est le nec plus ultra qu'il avait, ton plongeur. Mais il est trop mal en point pour t'aider.
Tellement mal en point qu'elle est à la morgue, mon pauvre Gaël.
Merde alors, excuse-moi, une plongeuse? Une vieille au moins.
Pas vraiment, la trentaine environ.
Ouch, ça va pas faire du bien au milieu, tout ça.
Bon, tu vas appuyer sur les boutons comme je vais t'indiquer. Et dans 3 minutes, tu sauras tout ce qu'on peut savoir sur cette plongée. On a de la chance d'avoir un matériel intégrant un GPS. C'est pas donné, tu sais. Et si tu veux, je t'enverrai même un câble, et tout arrivera sur ton micro. Le progrès, je te dis.
S'ensuivirent quelques manipulations de l'ordinateur, guidées à distance par Gaël, et Marie notait scrupuleusement toutes les infos délivrées par l'ordi.
« Donc je résume, » dit Marie. « Notre inconnu s'est mis à l'eau par 47 degrés 7 minutes, 7724 de latitude nord, et 3 degrés 11 minutes, 529 de longitude ouest, le lundi 3 juin à 6h30 du matin.
Bigre, je sais qu'il fait jour tôt en cette saison, mais quand même, elle était matinale.
Je suis en train de vérifier sur une carte marine. C'est pile à l'aplomb de l'Elisabethville, une épave d'un bâtiment allié, coulée en 1917 par un sous-marin allemand. Environ 60 mètres. Il a défrayé la chronique car il a fait l'objet d'une chasse au trésor pour retrouver une caisse de diamants qu'il était censé contenir.
Même avec une eau claire, on ne doit pas y voir grand-chose à cette profondeur.
Sauf qu'elle était aussi équipée d'un phare de malade, de quoi rallumer la salle de bal du paquebot.
Bon, donc elle plonge. 4 minutes pour descendre. À cette profondeur, elle ne peut pas rester bien longtemps, j'imagine.
Sauf qu'elle était en trémix. Il y a plusieurs dosages. Si on en croit celui indiqué sur l'ordi, elle pouvait raisonnablement rester 15 minutes, à condition de bien faire les paliers derrière, évidemment. Mais là, ça bug dur. Il semble qu'elle ait fait un peu le yo-yo, au fond. Monter, descendre, monter, comme si elle cherchait quelque chose, durant 6-7 minutes. Puis elle est remontée, d'abord doucement, et de plus en plus vite, sans aucun palier, pour finir comme un bouchon. De là, à cette profondeur, ça pardonne pas. Surtout qu'apparemment, elle n'a rien fait pour freiner sa remontée. Elle est passée de 7 bars au fond à 1 bar à la surface, en très peu de temps. Le gaz contenu dans la stab, mais aussi dans son corps, de 60 mètres, il a multiplié de volume par 7, jusqu'à la surface. Alors, si elle n'a rien fait pour souffler et purger, elle a dû s'éclater les sinus et les poumons, et même faire un saut de dauphin en arrivant là-haut.
Ça explique la stab, gonflée à mort, trouvée sur la plage. Et pourquoi elle serait remontée comme ça, à ton avis?
Alors là, mystère. On ne peut que faire des hypothèses. Je ne crois pas trop à la panique. Quand on plonge avec ce matos et à ces profondeurs, normalement, c'est qu'on a de la bouteille. Reste le facteur humain. Ivresse des profondeurs, syncope. Pour bien faire, il faudrait analyser le mélange. Vérifier que c'est bien celui inscrit sur l'ordinateur pour calculer les paliers théoriques. On en saurait plus.
Et pour la suite?
Arrivé à la surface, le GPS s'est remis automatiquement en route. Il nous donne d'autres informations. D'abord, elle avait quand même pas mal dérivé par rapport à la mise à l'eau. Il y a du jus par là. Aucun signe d'un déplacement volontaire en surface, mais une lente dérive avec des allers-retours liés au courant de marée. Ta cliente, tu sais, m'est avis qu'elle était déjà refroidie quand elle a fait surface.
Merci, Gaëlle. Une dernière question. Tu me dis que l'ordi a bien été déclenché sur le lieu de la plongée.
Affirmatif, Marie. C'est le cas habituel, tu sais.
Bien sûr, bien sûr. Elle est donc venue en bateau jusque-là.
Ça me semble évident. C'est quand même à 12 000 milles au large de Belle-Île.
Encore merci, Gaëlle. Si j'ai d'autres questions, je te rappelle.
Marie restait pensive. Si la plongeuse était venue seule, on aurait dû retrouver le bateau. Et puis non, difficile d'envisager de mouiller par cette profondeur. Décidément, on pouvait éliminer la première hypothèse. Il y a eu un ou plusieurs témoins, au moins en surface, car il fallait bien qu'une personne reste dans le bateau, et personne n'a mouffeté.
« Patron ? Oui, oui, ton Mossad, comme chez vous, je suppose.
Comment ? Oui, je vais quand même plonger cet après-midi.
Non, je ne vous rapporterai pas de coquilles, vous savez que c'est interdit.
Non, vous ne saviez pas ?
Ah, mais nul n'est censé ignorer la loi !
Plus sérieusement, j'ai de quoi requalifier l'accident putatif en enquête criminelle avérée. À minima, défaut d'assistance à personne en danger.
Comment ?
Oui, je sais maintenant qu'elle n'était pas seule. J'ai un échantillon de gaz contenu dans la bouteille à faire analyser par la police scientifique. Je leur adresse directement et vous confirmez la demande ?
Oui, bien sûr, je vous tiens au courant de tout.
Oui, c'est ça, tout à fait, comme d'habitude, patron.
Lieutenant Passepoil ?
Oui, c'est Marie. Dis-moi, Albert, j'aurais besoin de tout savoir sur le naufrage de l'Elisabethville, au sud de Belle-Île. Et aussi un état des lieux des personnes disparues depuis 8 jours, en se limitant aux femmes entre 20 et 40 ans.
Comment ? Tu m'envoies ça cet après-midi ? Tu es un as, Albert.
Marie se retrouvait dans le bureau de l'adjudant. Ici, sa réputation n'était plus à faire, et c'est avec un salut énergique et une poignée de main cordiale que Marie avait été reçue. Elle partagea ses premières conclusions, sans donner pour autant tous les détails qu'elle se gardait d'exploiter. Il suffisait aux gendarmes de savoir que la mort de la plongeuse devenait suspecte du fait qu'elle ne pouvait pas ne pas avoir eu de témoin.
Oui, mon idée, c'est qu'il est bien possible et même probable que l'expédition soit partie de Belle-Île. Du continent, ça fait loin, surtout pour être sur zone à 6h30 du matin. Donc, il est probable aussi que notre inconnu était logé sur Belle-Île. Location, tente, bateau, maison secondaire, dans les deux premiers cas, son absence devrait commencer à être repérée.
Et donc, vous aimeriez...
Exactement, avec efficacité et discrétion, la tactique du gendarme.
Marie fit son plus beau sourire pour faire passer la remarque malicieuse, et l'adjudant le lui rendit bien. Allons, qui disait qu'il y a toujours et partout la guerre de police ?
Marie dégustait sur le port un filet de rouget fraîchement pêché, exquis, et Marie apprécia que le filet fût extrait d'un rouget de taille respectable, au moins 40 centimètres. Cela changeait des rougets minuscules souvent vus sur les étals, des rougets bien en deçà de la taille de reproduction. Un vrai scandale. Tout à l'heure, elle allait faire sa première plongée avec le club, mais elle n'avait pas chômé, et surtout, quoique seule sur site pour l'enquête, seule pour l'instant, pensa-t-elle, elle s'était assurée dès sa première journée de diverses collaborations qui ne manquerait pas de faire avancer sa compréhension des événements. Le spot se trouvait à 1 mille nautiques de Palais, encore à l'abri de la houle atlantique. N'ayant pas plongé depuis quelques années, Marie avait opté pour cette plongée de réadaptation encadrée à une profondeur de 15 mètres environ. Le plaisir n'en était pas moins grand. Au bas du mouillage, elle découvrit un amas rocheux où de grandes laminaires digitées abritaient une grande diversité de poissons. Des labres, curieux, leur tournaient autour, sans craindre apparemment quelques roussettes qui somnolaient sur le gravier, ni les congres au museau ondulant lentement à l'orée de leurs trous. De temps à autre, Fred, chef de palanquée, vérifiait que Marie était à son aise, mais très vite, il constata qu'elle n'avait rien perdu de ses réflexes, utilisant le poumon ballast pour évoluer avec aisance dans cet univers aquatique. Au bout des rocs s'étendait un banc de sable, couvert d'ophiures violettes et de coquilles Saint-Jacques. Marie sourit intérieurement en pensant au patron. À ce moment, Fred croisa les mains en forme de X, signe de fin de plongée, et quoiqu'il restât à Marie 90 bars dans la bouteille, elle s'apprêta à remonter à la vitesse des petites bulles avec le reste de la palanquée. Elle savait que même de 15 mètres, il n'était pas question de remonter rapidement sous peine de risques graves. À 4 mètres, ils firent un palier de sécurité, et Marie eut tout le loisir de penser à la remontée fatale de la plongeuse inconnue. Une demi-heure plus tard, Marie notait ses paramètres de plongée sur son carnet et le faisait signer, un peu pour la forme, un peu pour le souvenir que ce livret entretenait. Mais l'enquêtrice n'était jamais loin, et en discutant, elle obtint plusieurs renseignements. Non, ici on ne plongeait pas au trimix, trop technique pour la grande majorité des clients. Par contre, il y avait une sorte de club privé, installé dans un ancien fort militaire qui en était équipé. Le club voyait parfois son Zodiac kaki se rendre sur des spots de plongée profonde, sur la côte sauvage et sur des épaves.
Il y en a beaucoup des épaves ici ?
Énormément. Et de toutes les époques. Bien sûr, il n'en reste pas grand-chose des plus anciennes. Le bois n'a pas résisté aux siècles. Et beaucoup d'autres sont trop profondes pour intéresser des plongeurs. Au-delà de 40 mètres, c'est une affaire de spécialistes ou de passionnés fous furieux.
Pourquoi ça ?
Plonger à 50-60 mètres, cela veut dire ne rester que quelques minutes sur le site, en ne voyant pas grand-chose. Faut vraiment être motivé. Surtout quand on a des fonds superbes, et même quelques épaves sympas, dans les 30-40 mètres.
Et pas moins profondes ?
Hélas, non. Si elles ne sont pas assez profondes, elles ont été dynamitées pour ne pas gêner la navigation. Et la houle du large a achevé le travail. Il ne reste que quelques tôles.
Mais avec votre niveau, on peut vous inscrire pour quelques-unes, si vous restez la semaine prochaine.
En fait, j'ai lu un récit du naufrage de l'Elisabethville et de son trésor de diamants.
Marie anticipait un peu, elle attendait encore le rapport détaillé de Passepoil.
Et cela m'aurait amusé de plonger dessus.
C'est bien les femmes, ça, toujours intéressées par les brillants. Mais il faudra vous faire une raison, ici on ne plonge pas à 60. Et les diamants, s'ils sont encore au fond, ils y resteront encore longtemps.
Marie fit mine de s'intéresser aux autres plongées sur épave inscrites au programme du club.
Et seulement si la météo s'arrange comme prévu, car pour le bateau de surface, c'est la galère quand il faut attendre les palanquées en étant secoué par la mer. Depuis 10 jours qu'on enchaîne les dépressions, cela devrait quand même finir par s'arranger. On a un mois de juin vraiment pourri cette année.
De retour à sa pension de famille, Marie s'octroya une petite sieste, toujours agréable, après la plongée. Puis elle ralluma son portable et une série de notifications stimula sa curiosité. C'était d'abord Albert qui précisait avoir envoyé sur sa boîte mail un compte-rendu des disparitions récentes, rien à signaler de ce côté. Et aussi un dossier fourni sur l'Elisabethville, avec de longs développements sur la recherche de diamants. Un vrai roman, semblait-il, de quoi occuper sa soirée. Accusé de réception de la police scientifique pour l'échantillon de gaz prélevé dans la bouteille de la plongeuse, elle devrait avoir le résultat le lendemain, en fin de matinée. Message de J.P., affectueux et un peu railleur quand même, demandant si au cours de ses plongées, elle avait rencontré la petite sirène, histoire de prendre une photo qu'il donnerait à ses filles. Message de l'adjudant, l'informant que l'enquête était en cours avec un premier lot de 3 logements délaissés. Il s'informait courtoisement de savoir si Marie voulait se joindre aux équipes qui allaient pousser plus loin les investigations. Marie rappela aussitôt l'adjudant, d'abord par politesse et aussi pour répondre positivement à l'invitation. Il fut convenu que le lendemain matin, Marie l'accompagnerait pour aller visiter ces 3 lieux. Allons, l'enquête continuait sur sa lancée, sans grand développement, certes, mais avec quelques pièces de puzzle supplémentaires. Marie se réserva de discuter le lendemain avec l'adjudant pour savoir ce qu'il pensait du club de plongée privé, installé dans d'anciens locaux militaires. Ce soir, elle allait parcourir tous les documents envoyés par Passepoil sur l'Elisabethville.
Quoiqu'il fît bien doux dans sa chambrette, Marie frissonnait en achevant la lecture du dossier sur l'Elisabethville. La mort de cette jeune femme, plus d'un siècle après le torpillage du paquebot, lui apportait comme des effluves sinistres toute l'horreur et les angoisses de cette terrible guerre sous-marine qui a transformé les côtes françaises en un gigantesque cimetière. Elle s'arracha à cette torpeur morbide pour résumer l'histoire de ce drame sur son ordinateur. Construit en 1910 pour la Compagnie belge maritime du Congo, l'Elisabethville était un paquebot mixte de 126 mètres de long, particulièrement rapide, pouvant atteindre la vitesse de 14 nœuds. Venant du Congo, il décharge une partie de sa cargaison à La Rochelle, puis part le 6 septembre 1917 à 6 heures du matin, sans escorte, comptant sur sa vitesse pour déjouer les attaques des sous-marins allemands qui infestent la région, et aussi sur le fait que les bâtiments belges étaient le plus souvent épargnés par les Allemands. À son bord, 2900 tonnes de fret, noix de palmiste, gomme, caoutchouc, cacao, ivoire, et aussi 12 kilos de diamants, soit 12 770 carats, censés être dans les sacs de courrier postal. 173 membres d'équipage et seulement 41 passagers, 99 ont déjà débarqué à La Rochelle avec une partie du fret. Curieusement, le commandant est parti sans attendre les 2 contre-torpilleurs censés l'escorter. Curieusement aussi, il enfreint la consigne de ne répondre qu'à des appels TSF venant de navires de guerre alliés. Faisant foi à un appel l'avisant qu'un sous-marin était entre Belle-Île et la Terre, il se déroute et décide de passer au large de cette île. Curieusement encore, le commissaire de bord aurait déclaré avant le départ « Nous sommes avertis que nous serons torpillés demain », propos consigné dans une lettre classée « Confidentielle défense » conservée par le service historique de la marine. Curieusement, enfin, il va faire un exercice de sauvetage en milieu de matinée.
Eh bien, se dit Marie, dans cette enquête, un mystère en cache un autre. Il y a un siècle, je me serais bien penchée sur cette affaire de torpillage suspect, mais voyons ce qui s'est réellement passé. À 13h50, l'officier de quart Yerno aperçoit le périscope d'un sous-marin trahi par son sillage sur cette mer d'huile. Il tente une manœuvre désespérée pour l'aborder. L'énorme cheminée du paquebot vomit une épaisse fumée sombre et sa coque vibre sous l'ordre avant toute des machines. La manœuvre d'abordage échoue de peu. La proue du grand steamer frôle de quelques mètres seulement la poupe du sous-marin. Celui-ci vient brusquement sur bâbord et lance sa torpille par le tube arrière. Le navire est atteint par tribord dans la salle des machines, à 2 mètres sous la flottaison. Tous les occupants de cette salle seront noyés et le bâtiment est immobilisé. L'évacuation est organisée pour les survivants. Vers 14h10, le navire se couche sur le flanc. Les 7 canots sont mis à l'eau. L'un d'eux sera même accosté par le sous-marin, dont le commandant interrogera celui de l'Elisabethville sur la cargaison à la destination de sa proie, avant de plonger et disparaître, son forfait accompli. Une vedette V-30, alertée par l'explosion, arrive bientôt sur les lieux et assiste à l'agonie du majestueux vapeur. La vedette prend à son bord les femmes et les enfants et, assistée d'un chalutier, remorque les 7 embarcations de secours à Palais. Les 196 rescapés envahissent les quais et seront logés dans l'église avant de rallier l'Orient le lendemain. Voilà pour le drame de 1917. En juillet 1928, un navire chasseur de trésors de la compagnie Sorima, l'Artiglio, repêche le coffre du paquebot. On y trouve un peu d'argent belge, de l'or, on remonte aussi des défenses d'ivoire et des caisses d'obus de petit calibre. Mais de diamants, pas de traces. Aujourd'hui encore, on ignore tout du sort de ces diamants qui auraient été placés en cassette dans des sacs postaux. Marie referma son ordinateur portable et réfléchit. Pouvait-il y avoir un lien entre la mort suspecte de cette plongeuse et ces diamants enfouis depuis un siècle dans cette gigantesque épave? Et s'il y avait un lien, serait-il jamais possible de l'établir? En fait, le rapport de Passepoil posait beaucoup plus de questions qu'il n'apportait de réponses. Et cette plongeuse, quand et comment la sortir de l'anonymat? Marie se doutait bien qu'il y avait là un enjeu majeur pour l'enquête. Enfin, tôt ou tard, sa disparition allait bien éveiller des inquiétudes parmi ses proches. Autant beaucoup de disparitions chaque année demeuraient des énigmes non résolues, autant un cadavre, surtout d'une femme encore jeune, ne pouvait manquer de finir par parler. C'était une affaire de temps. Seulement voilà, Marie, elle, était pressée de le faire parler, ce cadavre. Dès demain, avec l'aide de la gendarmerie, elle allait s'y employer. « Venez donc dans mon bureau, commandant Lester. » L'adjudant s'effaça galamment pour la laisser rentrer, referma la porte et lui proposa un siège avant de s'asseoir à son tour. « Un café ?» Marie acquiesça. « Tenez, nous avons repéré du côté de Sauzon une tente isolée qui semble abandonnée depuis plusieurs jours, en retrait du sentier côtier. Mais les saletés qui l'entourent font plutôt penser à un sans-domicile fixe. » Il sera difficile d'y trouver des indices probants et encore moins des témoignages. Je vous propose donc qu'on écarte provisoirement au moins cette piste. Il en reste 2. Une femme qui a des locatifs pour touristes s'est plainte il y a 3 jours que l'oiseau accueilli se soit envolé du nid et que la caution se soit révélée en faux billet. Il s'agissait d'un couple, mais cela ressemble plus à une arnaque de vacanciers indélicats qui auront voulu profiter d'une semaine de vacances à l'œil. Et de plus, le locatif est sur la côte nord-ouest, donc assez éloigné de Cardonis, exposé à la houle et peu propice pour organiser des opérations de plongée. La 3e me semble plus intéressante. C'est un randonneur qui nous a alertés. À proximité d'un gîte sur Loch Maria, il a vu un chien attaché le soir, et le gîte semblait vide. Le lendemain matin, notre ami des bêtes est repassé volontairement pour en avoir le cœur net. Le chien était toujours attaché, visiblement affamé, sans personne pour s'occuper de lui. Notre randonneur a prévenu la gendarmerie et voulait même porter plainte pour maltraitance envers un animal de compagnie. Loch Maria, c'est sur la côte sud-est, globalement protégée de la houle et avec des corps morts qui peuvent accueillir des bateaux de plongeurs. Je fais consulter le cadastre, le propriétaire est à Vannes. Je préférais ne pas le consulter tant qu'on n'y voit pas plus clair pour rester dans la discrétion. « Et vous avez bien fait. Et le chien ?»«
Comme nous avons un maître chien à la brigade, il s'en est occupé. Alors, on y va ?
Merci, adjudant. On y va.
Le Panty au volet bleu ciel était blotti dans un petit vallon qui dominait la falaise. À 5 minutes de là, il y avait la petite plage de Port-Blanc, particulièrement bien abritée, et 3 rangées de corps morts. Je n'ai pas de commission rogatoire, évidemment, mais je me fais fort d'entrer dans la place sans trop de difficulté. Ces vieilles bâtisses aménagées en gîtes sont tout sauf des forteresses. Et une fois la porte ouverte, on pourra toujours dire qu'on est entré pour vérifier qu'il n'y avait pas un autre animal abandonné.
« Et d'ailleurs, on va effectivement vérifier, » répondit Marie, qui pensait à Miss Du, actuellement confiée aux petits soins d'Amandine.
Un volet crocheté, et 2 minutes plus tard, ganté par précaution, l'adjudant et Marie étaient dans une petite salle à manger. Pas de traces d'animal, mais tout laissait une impression de logement abandonné sans préparation. Une brique de lait entamée avait tourné, une boîte d'aliments pour chiens était ouverte. Marie mit dans une sacoche en plastique quelques couverts posés sur la table et une brosse à dents prise dans la salle de bain.
« Tenez, voilà qui va peut-être donner un coup d'accélérateur à votre enquête. »
L'adjudant désigna à Marie un sac à main accroché à une chaise dans la cuisine.
« Et il contient des papiers importables. Celui-là, dès qu'on pourra l'ouvrir, on en saura beaucoup plus. Rien de plus bavard que ces petites bêtes-là. »«
Ce n'est pas trop réglo de l'emporter. »
« Pas trop, c'est vrai, mais on me dit toujours que le commandant Lester a des méthodes un peu à la marge et une interprétation large de la règle. Il faut bien que je reste à la hauteur de ma réputation. » Et Marie s'empara du sac à main.
« De toute façon, mon intuition me dit que désormais il ne manquera pas à sa propriétaire, et mon intuition me trompe rarement. »
Un instant plus tard, l'adjudant héla Marie.
« Venez donc voir ça. »
Marie entra dans la salle de bain, et découvrit rasoir électrique et divers vêtements qui témoignaient d'une présence masculine.
« Cela se corse. Ce logement a aussi été délaissé par cet homme. Qui est-il et quel serait son lien avec notre plongeuse ?»«
Probablement son compagnon. Seul le lit double semble avoir été utilisé. Mais pourquoi aurait-il également disparu ? Voilà une nouvelle question à laquelle nous allons devoir trouver une réponse pour faire avancer notre enquête. »
Et Marie déposa délicatement dans un autre sac plastique le rasoir électrique. Après un dernier coup d'œil, ils sortirent. L'adjudant crocheta à nouveau le volet. Extérieurement, personne ne pouvait savoir que le logement avait été visité. Dans la voiture, elle s'enquit auprès de l'adjudant de son avis sur le club de plongée privé.
« Alors là, je ne sais pas qui vous en a parlé, mais c'est un vrai nid de guêpe, ce club-là. Plusieurs fois déjà, ils ont eu maille à partir avec les services du port et les affaires maritimes. » Les limitations de vitesse dans la limite des 300 mètres, ce n'est pas pour eux. Le fanion de plongée non plus, ce qui ne les empêche pas de s'engueuler copieusement avec les plaisanciers qui passent trop près à leur goût quand ils sont en opération. Il y a eu voie de fait, encore récemment, avec les occupants d'un voilier. On les soupçonne bien un peu de mélanger pêche et plongée et de trafiquer avec quelques restaurateurs peu scrupuleux, mais tant qu'on ne les a pas pris la main dans le sac.
Et qui sont ces plongeurs ?
Ils ne sont pas nombreux, 3, 4 maximum. Ils ont leur compresseur, du matériel qui vient de la marine, je crois.
Vous pourriez m'établir leur identité ?
L'adjudant se tourna vers Marie.
Vous avez une idée derrière la tête.
Marie se retourna, feignant l'innocence.
Derrière quoi ?
Puis, se reprenant, elle se dit que la complaisance de l'adjudant et sa souplesse dans l'application du règlement valaient bien quelques confidences.
Eh bien oui, j'ai une petite idée. Car ils n'ont pas qu'un compresseur ordinaire, selon le club du port. Ils ont de quoi équiper un plongeur en trimix, exactement ce qu'avait notre plongeuse. Et ça, ça n'est pas très courant. Et puis, ils vont sur des plongées profondes, sur des spots bien différents de ceux fréquentés par le club de Palais et par les clubs classiques qui viennent faire des sorties à Belle-Île. Ils ont aussi un semi-rigide, avec 2 moteurs de 150 chevaux, de quoi rejoindre n'importe quel site autour de Belle-Île en quelques dizaines de minutes. Enfin, ils ont un repère très discret et fortifié, idéal pour abriter des activités lucratives,
mais pas forcément très légales, car mon intuition, elle me dit encore qu'avec tout ça, ils ne sont pas seulement passionnés par la photographie des hippocampes
et des concombres de mer.
Oh là ! Mais vous en savez déjà beaucoup, en peu de temps ?
Je sais surtout qu'une jeune femme est morte, qu'il y avait un ou plusieurs témoins, et que ces témoins se sont tus. Le moment venu, je leur demanderai bien leur emploi du temps le lundi 3 juin,
à ces gaillards. Au fait, vous avez quelqu'un à la brigade qui puisse craquer ce téléphone ?
Décidément, vous allez finir par me compromettre. Oui, j'ai cela à la brigade. Pas très légal, je le reconnais, mais très pratique. Tenez, il nous reste un peu de temps avant le repas. Si mon collègue est là, il devrait pouvoir vous rendre ce service.
Un quart d'heure plus tard, Marie était sur la galerie photo du téléphone. Elle fut à peine surprise d'y reconnaître la défunte dans des selfies et aussi dans des photos de groupe. Dernière photo, le 2 juin, avec un jeune homme rêveur aux cheveux châtains devant un coucher de soleil sur la mer. Si, comme il était probable, le coucher de soleil avait été pris du haut de la falaise à la pointe du Skull, pas très loin du Panty à l'est, le miroitement des derniers feux du soleil sur la mer devait, à peu de choses près, illuminer les flots au-dessus de l'Elisabethville. « Vous permettez, » dit-elle aux deux gendarmes qui regardaient, avec un silence éloquent, les photos de la défunte. Et Marie composa sur son portable le numéro du commissaire Fabien. « Oui, patron, ça y est, nous l'avons identifié. Léa Bergeonnet, 32 ans. Comment ? Eh bien, grâce au concours très efficace de la gendarmerie, nous avons identifié un gîte délaissé. Et bingo, c'était le bon. Comment ? J'ai bien respecté le droit de propriété. Patron, vous savez à quel point je suis à cheval sur le règlement. Quoi ? À cheval sauvage ? Écoutez, patron, le principal, c'est quand même qu'on sache enfin à qui on a affaire. C'est ça. Vous pouvez demander au lieutenant Passepoil de tout me dire sur Léa Bergeonnet ? Merci, oui, c'est assez pressé, comme d'habitude. Au fait, patron, je serais plus rassuré si J.P. pouvait venir 3 jours en soutien. Oui, je comprends, il a des dossiers en cours, mais j'ai repéré quelques gaillards un peu louches. Et mon petit doigt... Oui, mon petit doigt, vous savez, patron, qu'il ne me trompe pas. Merci, patron. Si, si, merci. Je sais que c'est un sacrifice pour vous de laisser partir J.P. Tenez, je vous envoie l'horaire de la navette. Allez, je vous laisse. Je dois prendre un pot avec les gendarmes pour fêter ça. Mais non, je plaisante, patron. Vous savez bien qu'un gendarme ne boit jamais durant son service. Mais il faut bien fêter ça tout de même. Je boirai seul s'il le faut. À votre santé. Les deux Pandores se regardaient médusés. Eh bien, dites donc, vous le menez comme vous voulez, votre patron. Disons qu'on se comprend bien et qu'il ne lésine pas sur les moyens pour mener à bien une enquête. Je vais donc avoir un collègue qui arrivera par le bateau de 16h20. Je vous le présenterai, bien sûr. Je peux vous laisser continuer les investigations sur le téléphone, liste des contacts, emploi du temps des derniers jours, messagerie. Je suppose que vous avez le logiciel d'analyse des téléphones qui permet de croiser toutes ces infos. Parfait. De mon côté, je fais un point et je vous propose une rencontre de bilan avec mon collègue vers 17h. Quand J.P. et Marie se présentèrent à la gendarmerie, l'adjudant et son collègue présentaient une mine grave, et Marie comprit tout de suite qu'il y avait du nouveau. Après les présentations d'usage, l'adjudant les fit asseoir et s'éclaircit la voix. « Écoutez, la piste criminelle est désormais confirmée. Parmi les contacts de Léa Bergeonnet figure un certain Bertrand Le Goff, assassiné à son domicile à Vannes le 5 juin dernier de plusieurs coups de poignard au thorax. » Ils avaient eu de nombreux échanges téléphoniques ces dernières semaines. Marie et J.P. se regardèrent stupéfaits. La première, Marie se reprit et demanda « Et que sait-on de cet homme et de ses assassins ?»«
Rien sur ses assassins, mais on a beaucoup de renseignements sur lui. C'est un historien amateur, mais très compétent, spécialisé dans l'archéologie sous-marine. Son appartement avait été fouillé, son ordinateur volé, mais on a retrouvé une sauvegarde de son disque dur. Et sur cette sauvegarde, on a fait tourner une recherche de mots-clés. Tout un dossier qui évoque Léa Bergeonnet, avec des tas de renseignements sur l'Elisabethville, et plus exactement sur les diamants de l'Elisabethville. Ce fut au tour de l'adjudant d'être surpris.
Exactement, mais comment ?
L'intuition, encore et toujours, cher adjudant.
Et ce n'est pas tout. Le téléphone nous a aussi appris que Léa Bergeonnet avait un compagnon, Steve Gendron. On a vérifié. C'est lui qui figure avec elle sur le selfie pris la veille du drame. A confirmé avec les empreintes, mais c'est probablement l'autre occupant du Panty qui a disparu également. Ce qui en fait un suspect.
Peut-être, fit Marie avec une moue discrète qui n'échappa cependant pas à J.P.
Tu n'y crois pas ?
Rien ne permet de l'exclure.
Pour l'instant, c'est vrai, se contenta de lui répondre Marie.
J.P. montrait les signes les plus évidents de l'incompréhension et il attendait patiemment qu'on veuille bien le mettre au parfum, comme il disait familièrement.
Cependant,
Comme il ne voulait pas être en reste, il tendit une enveloppe à Marie. « Tiens, je t'ai apporté cela de la part de la police scientifique. » Marie ouvrit l'enveloppe. Elle contenait tout un exposé technique sur le Trimix, les différents dosages de mélange de gaz habituellement pratiqués par les plongeurs en fonction des bénéfices recherchés, et elle alla directement aux conclusions. Le mélange contenu dans l'échantillon ne correspond à aucun des standards habituels. Son effet sur l'organisme humain en plongée profonde devait inéluctablement conduire à provoquer une narcose des profondeurs avec risque de syncope au bout de quelques minutes, passé la profondeur de 40 à 45 mètres.
« Voici la preuve
que Léa, elle aussi, a été assassinée, » dit Marie en mettant sur la table le compte-rendu de la police scientifique. J.P., un peu dépassé par ces éléments nouveaux qui s'accumulaient sur une histoire déjà confuse, déposa une autre enveloppe contenant un dossier et une clé USB. « Et voici les premiers éléments dénichés par Passepoile sur Léa Bergenet. »« Passepoile ? C'est notre petit génie informatique, » précisa Marie. « Rien ne lui échappe. » Et elle entreprit de parcourir rapidement le dossier. Tiens, Léa, qui travaillait comme commerciale dans une grande enseigne, a démissionné de son poste il y a 6 mois, prise d'une soudaine passion pour la plongée. Elle a enchaîné les stages de formation. Soudain, elle laissa échapper une exclamation. Ça alors ? Figurez-vous que Léa Bergenet, domiciliée à Aradon, est la descendante directe du commandant de l'Elisabethville. Je commence à comprendre.
Tu en as de la chance, maugréa J.P. Pour moi, la visie est nulle.
Adjudant, peut-on avoir accès aux données du disque dur, trouvées chez Bertrand Le Goff ?
Tout ce qui concerne Léa Bergenet et l'Elisabethville est déjà transféré sur mon ordinateur. Vous pouvez le consulter quand vous voulez. Mais il me semble que vous avez déjà une hypothèse à nous partager.
Marie garda quelques instants de silence pour mettre en ordre tous ces éléments nouveaux, puis se lança. Écoutez, bien sûr, cela demandera à être corroboré par des éléments factuels. Mais imaginons que Léa Bergenet ait découvert dans les papiers de son aïeul des informations précises sur la localisation des diamants à bord de l'Elisabethville. Que feriez-vous à sa place ?
Perso, j'essaierai de les récupérer moi-même. Intervint J.P.
Et c'est ce qu'elle a aussi pensé, en se formant ces derniers mois de manière accélérée en plongée.
Moi, à sa place, j'aurais vérifié que cette histoire est sérieuse, nota l'adjudant.
Et c'est encore ce qu'elle a fait, en prenant contact avec Bertrand Le Goff, historien local reconnu. Ensemble, ils ont recoupé les informations, jusqu'à acquérir la certitude que les diamants étaient toujours là, par 60 mètres de fond. Restait à aller les chercher.
« Plus facile à dire qu'à faire, » intervint J.P. « Plonger à 60 mètres n'est pas à la portée du premier venu. »
« Effectivement, cela demande une logistique, un soutien technique que peu de gens peuvent apporter. Il leur fallait trouver la perle rare. » « Et ils l'ont trouvée. Je ne sais pas encore comment, mais je parierais que Léa Bergenet est entrée en contact avec nos lascars du club de plongée privé. Seulement, on ne leur en raconte pas. Il a fallu leur donner des gages, des preuves même. »
Oui, mais c'était joué au chat et à la souris. Au final, qui allait récupérer le magot ? Comment le partager ?
Ou comment ne pas le partager ? Une fois que les gaillards en savaient assez, ils pouvaient bien être tentés d'éliminer les seules personnes au courant.
Léa Bergenet, Bertrand Le Goff.
Et vous oubliez Steve Gendron, son compagnon, avec qui elle partageait la location du Panty, était forcément au courant. Or, je le vois mal être de mèche avec ceux qui ont assassiné Léa, sa compagne. Quel intérêt ceux-ci auraient-ils eu à le mettre dans la confidence de leur manigance ? Il était bien plus pour eux un gêneur.
Mais alors, qu'est-il devenu ? Peut-être bien qu'un troisième cadavre nous attend quelque part.
Peut-être, mais pas sûr, reprit Marie. Reprenons les événements et extrapolons. Steve ne voit pas revenir Léa. Parti pour explorer l'Elisabethville avec les gaillards du club privé. Forcément, il s'inquiète, mais elle lui a demandé de l'attendre. Admettons qu'il apprenne la mort de Bertrand Le Goff, avec qui il devait être en lien lui aussi. Là, sa méfiance envers les plongeurs se transforme en soupçon. Il s'imagine ou il devine que la disparition de Léa et la mort de Bertrand sont le fait de ces hommes. Il se dit que lui aussi est en danger, et n'a peut-être pas tort. Il panique. Il s'enfuit du Panty. Tous gardèrent le silence, C'était comme une navigation par temps bouché où une brise soudaine dissipe la brume et permet de savoir enfin où on se trouve. Marie fut la première à réagir. « Si c'est bien le cas, et s'il est encore vivant, Steve est en danger. Il en sait trop. L'urgence est de le retrouver. Pouvons-nous savoir s'il a quitté Belle-Île ?»«
Si c'est par les navettes, oui. Tous les passagers sont désormais identifiés. Je le saurai dans 2 heures. »
« Adjudant, vous m'avez dit que la météo devait s'améliorer les jours prochains. Est-ce que c'est confirmé ?»«
Attendez. Oui, avec l'anticyclone, le vent passe au nordais. La mer va se calmer d'ici 36 heures et le soleil va revenir. » Et en plus, on arrive en morteau en fin de semaine, de tout petits coefficients. Moins de courant de marée, meilleure visibilité, renchérit l'autre gendarme.
« Juste la bonne fenêtre pour nos pirates, » murmura Marie. « J.P., je crois que tu es arrivé au bon moment. » Puis, s'adressant à tous, « Il nous reste peu de temps pour monter la souricière. »
La flûte enchantée résonna dans le sac à main de Marie alors que J.P. achevait ses profiteroles.
« Oui, adjudant. »
Comment ?
Par le bateau de ce soir.
Par exemple, le vent tourne du bon côté pour nous.
Oui, bien sûr, j'aimerais être avec vous pour l'interroger.
Nous pouvons être là dans la demi-heure.
Le temps de régler la note et de parcourir les 200 mètres qui les séparaient de la brigade, et Marie, flanquée de J.P., entrait dans le bureau de l'adjudant.
Votre intuition et la chance nous ont servi, Marie. Steve Gendron, après avoir erré sur Belle-Île, s'est présenté ce soir pour prendre la navette vers Quiberon, au départ de Sauzon. C'est même lui qui dormait dans la tente retrouvée vide.
Quelle a été sa réaction ?
Ses propos sont un peu incohérents, il semble choqué. Mais dès demain matin, nous pourrons l'interroger. Il est venu sans opposer la moindre résistance. Il semblait même plutôt rassuré d'être interpellé, ce qui n'est pas très courant.
Très bien, puisque nous sommes là, je vous propose un conseil de guerre pour prendre nos malfrats de vitesse. J'y ai réfléchi pendant le repas de ce soir.
J.P. se récusa.
« Tu as réfléchi, alors que tu as passé le repas à me parler de la vie au commissariat. »«
Tu sais bien que nous autres femmes, nous avons le privilège de faire plusieurs choses en même temps. »«
Moi, dis plutôt que c'est ton privilège à toi. » »« Bref, il me semble que la priorité est de gêner les recherches
sur l'Elisabethville
pour éviter de se faire doubler. On pourrait par exemple envoyer patrouiller un bateau sur zone, l'air de rien. » Si, comme on le suppose, leurs intentions ne sont pas nettes, ils hésiteront à 2 fois avant de plonger en présence d'un chalutier dans leurs pattes. Le bateau de la SNSM, peut-être.
Non, trop suspect. Ils n'ont pas de raison de sortir. Il faudrait plutôt un pêcheur.
Rien de plus facile, reprit l'adjudant. Dans la flotte des chalutiers de Palais, on a un indique, déjà chargé de nous renseigner sur les activités des pêcheurs espagnols qui ont tendance à dépasser leurs prérogatives. En ce moment, il est à quai. Je l'appelle ce soir. Dès demain, il sera sur zone.
Parfait. La deuxième partie de mon plan est un peu plus délicate, car il ne suffit pas d'interpeller des plongeurs qui fouilleraient une épave de manière illégale. Ce qu'il nous faut, c'est établir le lien entre nos lascars et la disparition de Léa Bergenet.
On pourrait perquisitionner leur club privé de plongée et chercher des indices, voire des emprunts, suggéra l'adjudant.
On pourrait, mais si on ne trouve rien, on se grille.
Non, j'ai une autre idée. Un peu machiavélique, je le reconnais.
« Oh là là, si elle le reconnaît, c'est que ça doit être bien tordu !» s'exclama J.P.
« Pour ça, il va me falloir apprivoiser Steve demain matin, car je voudrais lui faire accepter de revenir au Panty. »«
Le coup classique de la chèvre. Classique, mais risqué, » s'inquiéta l'adjudant.
« Risqué surtout pour la chèvre, » fit J.P. rigolard. Mais avant de le faire revenir, il faudra aussi qu'il reprenne contact d'une manière ou d'une autre pour que les malfrats sachent qu'il est toujours là et qu'il est dangereux pour eux. Après, à nous de protéger la chèvre du lion, mais assez discrètement pour piéger le lion quand il voudra venir manger la chèvre.
Le lendemain matin, il incomba d'abord à Marie la pénible tâche d'apprendre à Steve Gendron la mort de sa compagne. Il fut terriblement accablé. Non qu'il nourrit grand espoir, car il avait effectivement appris l'assassinat de Bertrand Le Goff, mais la confirmation de ses craintes le laissa d'abord abattu. D'abord, avec une toute petite voix, il raconta son histoire. Oui, il était au courant du projet de Léa. Oui aussi, il se méfiait grandement des plongeurs, mais comme Léa le lui avait répété, elle n'avait pas le choix. Et oui aussi, il avait cherché à joindre Bertrand pour se rassurer en ne voyant pas revenir Léa.
devant l'absence de réponse de Bertrand, et bientôt devant la terrible nouvelle parue dans la presse de son assassinat, il avait paniqué, fuyant le Penty en pleine nuit avec une tantiglou. Au bout de 2 jours, il avait eu peur d'être repéré et s'était réfugié dans un bois. Trempé, affamé, harassé, il avait pris le risque de prendre la navette pour quitter Belle-Île. Marie avait vu juste, sur toute la ligne. Dans le même temps, chacun des 3 plongeurs fut mis sous surveillance. Le soir même, Steve Gendron regagnait le Penty. Cela n'avait pas été trop difficile de le convaincre. La douleur qui l'avait submergé le matin s'était progressivement muée en colère. Aussitôt qu'il comprit que sa collaboration était requise pour confondre les assassins, il accepta d'entrer dans le stratagème. Au demeurant, tout fut mis en œuvre pour assurer sa sécurité. En milieu de matinée, il avait envoyé un texto au plongeur en prétextant qu'il avait cherché Léa partout dans Belle-Île et qu'il avait fini par se persuader qu'elle l'avait quitté pour eux. Il écrivit des mots suppliants, la requérant, si elle était bien avec eux, de revenir au Penty. Les 3 hommes, discrètement filés par les gendarmes dès le lever du jour, se retrouvèrent dans leur local pour le repas de midi. Impossible de surprendre leur conciliabule, mais il se poursuivit jusqu'au soir, éprouvant la patience du planton, chargé de signaler leurs allées et venues. Quand enfin ils se décidèrent à sortir, la nuit tombait. Pendant ce temps, on avait redonné au Penty toutes les apparences d'une maison occupée. Le chien lui-même avait retrouvé sa place, la lampe de la chambre brillait à travers les persiennes, à proximité, une hulotte lançait à intervalles réguliers son appel mélancolique. Le ciel, dégagé par le vent de Nordet, était éclairé d'une lune gibbeuse et coruscante. « 1, 2, 3 !» compta Jippy, qui observait de sa planque le chemin d'accès au Penty. Oui, 3 silhouettes se découpaient sur la haie fleurie d'aubépines blanches. « Parfait. Le trio n'avait pas tardé à tomber dans le panneau, trop pressé d'en finir avec un témoin incapable de compromettre leur forfait. » Jippy repassait en boucle la vidéo enregistrée par la caméra de surveillance installée dans la chambre du Penty. On y voyait 3 hommes défoncer la porte et s'acharner à coups de clés à molette sur un corps lové sous la couette, avant de rugir en découvrant que ce n'était qu'un traversin. Puis tout s'enchaînait très rapidement, les projecteurs illuminant la maison, la sirène et les appels aux porte-voix de l'adjudant sommant les bandits d'accepter la reddition. L'un d'eux tenta bien une sortie en bondissant par la fenêtre jusque dans un massif d'hortensia, mais il fut ceinturé par une sorte de géant. Celui-ci l'immobilisa aussitôt d'une clé au bras qui le fit geindre sourdement, les 2 autres jugèrent plus prudent de se rendre. 1 demi-heure plus tard, chacun était isolé dans une geôle de la gendarmerie. Le lendemain matin, le plus âgé des 3 se mit à table le premier. Une confrontation eut lieu qui donna un pitoyable spectacle où chacun chargeait ses 2 compagnons dans un flot d'incohérence. Marie quitta la glace sans teint d'où elle suivait l'interrogatoire avec un goût fade dans la bouche. Certes, le job était fait, comme disait Jippy, mais cela ne ferait pas revenir à la vie la jeune femme et l'archéologue, victime naïve de la cupidité humaine. « Mortel diamant !» dit sentencieusement le commissaire Fabien après le récit circonstancié que venait de lui faire Marie dans son bureau. Il laissa planer un petit silence, comme pour méditer la portée philosophique de sa conclusion. Puis il ajouta en soupirant « quand même, à défaut de joyaux, vous auriez pu me rapporter quelques coquilles !» Ici se termine « Mortel diamant » de Mervaise.